France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin deux invités dans le grand entretien. Le premier, professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po. Le second, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Ils ont coordonné une jeunesse plurielle, enquête auprès des 18-24 ans, publiée par l'Institut Montaigne. Et j'attends vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'appli mobile d'Inter. Marc Lazare, Olivier Galland, bonjour.
Bonjour. Bonjour
et bienvenue. Vous venez donc nous dévoiler ce matin les conclusions de cette enquête réalisée avec l'Institut de sondage Harris Interactive sur un échantillon de 8000 jeunes. Vous les avez interrogés sur la famille, l'école, le travail, les valeurs, la politique et les réponses de ces jeunes ont été comparées à celles de leurs aînés. Un échantillon de parents, les 45-56 ans, et j'aime beaucoup le suivant, un échantillon de boomers, les 66-76 ans.
On en fait partie avec Marc.
Vous en faites partie, exactement. L'enquête, on va le voir, nous on est les parents, dément un certain nombre de préjugés, d'idées reçues très tenaces sur la jeunesse. Alors même question à tous les deux pour commencer, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette enquête? Qu'est-ce qui a même été à l'encontre peut-être de vos propres idées reçues, Olivier Galland?
Alors écoutez, il y a plusieurs choses, le genre et le sexe, mais ça je laisserai Marc en parler. Et une autre chose qui nous a surpris par sa force, c'est le clivage culturel à l'intérieur de la jeunesse. Alors on a posé une question très simple dans le questionnaire, combien de livres y a-t-il au foyer de vos parents? Et ça c'est extrêmement discriminant. Et donc ça introduit un clivage très fort à l'intérieur de la jeunesse, entre ceux dont les familles, disons, ont un haut capital culturel et ceux qui ont un capital culturel plutôt faible. Et on le voit sur tout ce qui concerne la participation politique, l'intérêt...
Ça se ramifie après.
Ça se ramifie complètement, l'intérêt pour les questions sociétales. Donc, il y a toute une partie de la jeunesse. Alors, dans notre échantillon, on a fait une typologie, il y a un groupe qui s'appelle les désengagés. Et précisément, ce sont des jeunes qui ont une famille à très faible capital culturel, 26% de notre échantillon, et qui sont totalement en retrait du jeu démocratique. Et ça nous semble grave, d'ailleurs.
Et donc, vous lisez ça à l'aune du nombre de livres qu'il y a dans la maison des parents,
quoi. Absolument.
Et vous, Marc Lazare, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce qui est même allé à l'encontre de vos idées reçues, de ce que vous pensiez de la jeunesse?
Mais alors, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est la place des femmes parmi ces jeunes de 18 à 24 ans. Parce que on voit très bien, enfin, la grande idée qui sort de cette enquête, hein, c'est qu'il y a une jeunesse et des jeunesses. Et des jeunesses pour de multiples aspects. Et l'un de ces aspects, justement, de la différenciation, c'est les femmes. Des femmes qui sont particulièrement impliquées sur les grandes questions sociétales, que ça soit l'environnement, que ça soit, bien sûr, si j'ose dire, la question des violences sexuelles. 28% d'entre elles disent qu'elles ont subi des agressions sexuelles. Alors, évidemment, il faudrait exactement comprendre ce qu'on entend par là. Sont très motivées aussi sur les questions des inégalités, sur toutes les questions sociétales. Elles sont impliquées, elles veulent s'impliquer, elles respectent le cadre démocratique, elles réfutent la violence, mais elles ne trouvent pas de débouché dans les formes actuelles des organisations et des associations politiques.
Et ça, c'est différent des générations précédentes.
Alors, notamment sur...
Vous écrivez notamment que les évolutions sociétales et politiques sont désormais davantage impulsées par les femmes, que les femmes deviennent moteurs de la société. C'était pas le cas avant?
Je crois moins, en tout cas. En tout cas, c'est ce que l'on peut voir, notamment dans la comparaison avec les femmes des parents, si j'ose dire, et des boomers. Et notamment sur une question importante, puisqu'on a posé une question sur est-ce que vous pensez que les différences entre les hommes et les femmes sont liées au sexe et à la naissance, en quelque sorte, ou qu'elles sont construites culturellement? Et à la différence de leurs aînés, les femmes parents, les mères, ou les grands-mères, les pépis ou mamie boomers, elles considèrent majoritairement que ces différences viennent de phénomènes culturels. Et par conséquent, oui, elles nous semblent à l'avant-garde de transformation. C'est très intéressant, en même temps sans trouver un débouché politique.
Olivier Galland, vous disiez en février 2021 au Point, je vous cite, que la jeunesse devient le réceptacle d'angoisse latente parce que la société française doute d'elle-même parce qu'elle est très pessimiste. Elle imagine pour ces jeunes un avenir catastrophique. C'est ça le mécanisme? On projette sur la jeunesse nos propres angoisses alors que votre enquête montre qu'il y a tout de même une relation intense au bonheur.
Bien sûr.
C'est un paradoxe.
Oui, c'est un paradoxe, effectivement. On voit que 80% des jeunes se disent heureux. Donc ça, ça nous a effectivement frappés.
Ça paraît surprenant.
Oui. Oui, ça paraît surprenant, mais vous savez, ça confirme d'autres enquêtes. Il y a par exemple des enquêtes de l'Adresse où on interroge les jeunes sur leur avenir personnel. On trouve les mêmes résultats. En fait, il y a un paradoxe, si vous voulez, c'est que les jeunes, et d'ailleurs aussi les moins jeunes, sont plutôt optimistes sur leur avenir personnel et très pessimistes sur l'avenir de la société. Donc voilà, il y a un pessimisme social et un optimisme personnel qui caractérise cette génération.
Qu'il faut tempérer par le fait que c'est une jeunesse affectée par le Covid.
Oui.
Affectée par le Covid.
Vous avez choisi une date précise, septembre 2021, pourquoi ?
C'est important de le préciser parce qu'on pensait, et c'était le cas, qu'il y avait un moment de répit à l'époque par rapport à l'effet de la pandémie. Et donc, effectivement, il faut faire très attention, c'est un moment de répit, mais il n'empêche que 51% des jeunes se sentent particulièrement affectés. Et nous pensons dans cette enquête que particulièrement les jeunes les plus précaires, bien sûr, mais aussi les jeunes étudiants, on le savait, on le pressentait, moi je le vois comme professeur, bien évidemment, à Sciences Po, mais dans toutes les universités, ont été particulièrement affectés. Et là, il y a une grande question qui se pose, on n'a pas la réponse, on ne peut pas trancher, c'est est-ce que la jeunesse va surmonter ce moment-là quand on sortira de la pandémie, ou est-ce qu'il y aura un effet de plus longue durée? Évidemment, on ne peut pas se prononcer pour le moment.
Alors moi, je crois qu'elle va le surmonter, je pense que l'optimisme va reprendre le dessus. Simplement, cette pandémie va peut-être aggraver les inégalités à l'intérieur de la jeunesse. Parce que ceux qui risquent d'être le plus affectés par cette crise, eh bien, ce sont ceux, par exemple, qui ont dû interrompre leurs études, qui sont devenus des décrocheurs scolaires. Et donc, voilà, il y aura peut-être un effet d'accentuation des inégalités à l'intérieur de la jeunesse.
Autre élément intéressant, quand on regarde le panorama, c'est le rapport au travail, très différent par rapport à leurs aînés, plus que l'obsession du salaire ou de la sécurité de l'emploi. Les 18-24 ans cherchent des métiers de passion, notamment chez les filles. Est-ce qu'elle n'est pas là, la grande révolution silencieuse, Marc Lazare?
Sans doute par rapport aux parents et par rapport aux boomers, tel qu'on le fait dans cette enquête, parce que ce jeu de miroir est particulièrement, je crois, innovant, inédit et intéressant. Et effectivement, une grande majorité des jeunes, a priori, souhaitent avoir un travail par passion et non pas pour des raisons financières. En revanche, il y a
Alors que les boomers, c'était le salaire.
Absolument.
Et la sécurité de l'emploi.
Absolument.
Ça
et là, il y a des jeunes qui disent, nous, on veut exercer un travail par passion. Donc, c'est un élément tout à fait intéressant. On va voir si ça se réalise. Attention, ils ont 18-24 ans. Un certain nombre de nos enquêtés sont déjà dans une situation de recherche d'emploi, sont parfois en CDI ou sont dans des CDD, mais une autre proportion est encore dans la formation estudiantine. Donc, c'est une question intéressante à voir. En même temps, il y a des contradictions. C'est des jeunes très intéressés par les questions de l'environnement, mais il y en a simplement 4% qui disent qu'ils choisiraient une entreprise qui œuvre en matière de responsabilité sociale et justement qui prend en compte les questions d'environnement. Donc on a une jeunesse un peu en contraste, enfin une jeunesse de 18 à 24 ans,
paradoxal.
Ici un peu avec des tensions internes, ce qui est par ailleurs normal.
Le rapport à la politique maintenant chez les jeunes, c'est très intéressant dans votre enquête. Bon, vous confirmez la défiance des jeunes vis-à-vis de la politique, on le voit dans les urnes avec les taux d'abstention qui sont massifs chez les jeunes, ils ne vont plus voter les jeunes. Et vous classez les jeunes en 4 catégories dans leur rapport à la chose politique et à la res publica. Les démocrates protestataires, les révoltés, c'est la deuxième catégorie. Les désengagés, c'est la troisième dont vous parliez tout à l'heure. Et ce que vous appelez les intégrés transgressifs.
C'est un groupe paradoxal. Mais reprenons. Les démocrates protestataires, c'est la partie la plus importante. 39% de notre échantillon se classe dans ce groupe. Ce sont des jeunes qui sont très intéressés par toutes les questions sociétales, notamment celles qui ont trait à l'environnement, au genre.
Il y a des livres chez leurs parents.
Absolument. Hein? Ce sont plutôt des femmes. Plutôt des femmes, donc de haut niveau culturel, plutôt diplômées. Mais qui sont un peu en retrait sur l'engagement politique. Mais qui croient à la démocratie, qui répudient la violence politique.
Ça, c'est le premier groupe.
Les révoltés, alors c'est un peu l'inverse. Ce sont des jeunes. Révolté dit bien ce qu'ils sont, ils croient à la révolution, ils ne répudient pas la violence politique, ils sont prêts à accepter des actes violents. Et ce sont des jeunes, alors là ce sont plutôt des jeunes en difficulté, à la fois matérielle et psychologique. Ça nous a frappé, on a un indicateur de détresse psychologique et ils sont très haut sur cet indicateur. Ce sont des jeunes un peu en déshérence.
22%. Hein.
Voilà, 22%. Ils sont déracinés aussi, ils n'ont pas d'attache locale, pas d'attache territoriale. Voilà, c'est un groupe en déshérence. Et puis on a effectivement les désengagés, 26%. J'en ai déjà dit un mot tout à l'heure. Bon, voilà, ce sont des jeunes qui sont en retrait.
Invisibles, dites-vous.
Invisibles, c'est ça, c'est des invisibles. Des jeunes dont on ne parle pas, qui sont représentés par personne et qui représentent un quart de notre échantillon. Et puis on a un dernier groupe très paradoxal qu'on a appelé les intégrés transgressifs. Alors intégrés parce qu'effectivement, ils ont plutôt un emploi, ils sont plutôt confiants dans la société, mais ils semblent adhérer à une culture transgressive. Voilà, ils justifient plus souvent que les autres jeunes la violence, la déviance, et dans ce groupe sont surreprésentés des jeunes d'origine immigrée, de confession musulmane. Ça ne veut pas dire qu'ils sont majoritaires dans ce groupe, mais ils sont assez fortement surreprésentés.
Expliquer ce point, vous montrez effectivement que les jeunes de confession musulmane sont très largement convaincus que la France est une société raciste par nature. Conviction qui est, je vous cite, susceptible de nourrir leur propension à justifier plus que d'autres la violence politique et les comportements déviants. Fin de citation. Ouais. La phrase est très prudente, faites-en l'exégèse, Marc Lazare, et dites-nous si vous voyez là quelque chose de préoccupant.
Oui, c'est préoccupant. Évidemment, c'est quelque chose qui nous a surpris, là aussi. Vous dites prudent, on a essayé d'être dans la nuance, comme on doit être dans une démarche scientifique. Et par conséquent, effectivement, c'est des jeunes d'origine étrangère et de confession musulmane qui ont le sentiment, la perception de vivre dans une société qui les rejette, dans une société de type raciste. Pour eux, il y a un racisme structurel très important, c'est-à-dire, oui, la France est une puissance colonisatrice et elle reste raciste, et qui, par conséquent, se sent en marge. Et effectivement, une forme d'acception de la violence politique, la violence par rapport à la police, ou des comportements déviants. Oui, on a plutôt raison de ne pas payer, c'est acceptable de ne pas payer son billet de train, par exemple. Alors, effectivement, il faut trouver des explications. On esquisse un certain nombre d'hypothèses. Le fait qu'ils habitent dans des quartiers, et ça, Olivier a beaucoup travaillé là-dessus, si vous voulez plus d'informations, il vous les donnera, des quartiers où il y a déjà des formes de violence très importantes. Il y a aussi un élément fondamental, parce que ça aussi, c'est un élément, Léa Salamé, vous disiez, qu'est-ce qui nous a frappé, c'est leur rapport à l'éducation, à l'orientation. Ils ont été malheureux dans le processus éducatif et dans l'orientation, mais 41% des jeunes considèrent qu'ils ont mal vécu leur parcours scolaire. C'est quand même une proportion colossale, extraordinairement importante. Et donc voilà, on a ces éléments en tête.
Et sur le rapport quand même à la violence, vous montrez bien qu'il y a une plus grande tolérance à la violence. Vous dites près de la moitié, donc un jeune sur deux, trouve acceptable, compréhensible de s'affronter à des élus pour protester ou d'insulter le président de la République.
Oui. Oui, alors ce rapport à la violence.
Un sur deux.
Oui, ce rapport à la violence, d'ailleurs, il est partagé aussi sur certains points par les autres générations.
Oui, tout à fait,
attention,
oui,
il n'y a pas que les jeunes. Et sur l'affrontement avec les élus, c'est assez équilibré entre les générations. Par contre, sur les dégradations de l'espace public, là, on était très frappés de voir qu'il n'y a pas loin d'un jeune sur cinq qui trouve plus ou moins légitime de dégrader l'espace public. Mais je voudrais revenir un instant sur les jeunes d'origine immigrée ou les jeunes musulmans. Là, effectivement, alors c'est évidemment une question politiquement très, très sensible et on est prudent, mais c'est vraiment un problème grave dont on parle peu, d'ailleurs, je trouve, dans les débats politiques. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec la théorie fumeuse du grand remplacement, parce que ce sont des jeunes français qui ont été socialisés en France et qui resteront français. Et on sent qu'il y a un malaise profond. Et effectivement, il y a un espèce d'engrenage, si vous voulez, parce que lorsqu'on voit que ces jeunes pensent vivre dans une société hostile et qu'en même temps, ils pensent légitime de s'affronter à la police, et qu'en retour, ils sont évidemment plus réprimés par la police, ce qui entretient leur sensation, leur sentiment d'être victime d'une société hostile, on voit qu'il y a là une espèce d'engrenage mortifère.
C'est quoi le risque? C'est quoi le risque de désintégration?
Ah, le risque, si vous voulez, on a eu en 2005 des émeutes dont tout le monde se souvient. Je pense que ça peut se reproduire. Et on n'a pas eu beaucoup de progrès sur cette question de l'intégration des jeunes. Et comme disait Marc, Là, le rôle de l'école aussi est très important, parce qu'il y a une frustration scolaire très importante chez ces jeunes-là. Et l'école, on le sait malheureusement, les enquêtes PISA le montrent, l'école française n'arrive pas à remédier aux inégalités culturelles.
On va filer au standard où nous attend Dominique. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour. Oui, écoutez, je suis d'accord avec Marc Lazare sur le constat de la non-implication politique de la jeunesse. Et en même temps atterré par la passivité et le fatalisme des jeunes dans leur ensemble, face à pourtant à l'héritage que nous leur laissons, l'héritage environnemental,
vous êtes
économique.
Vous êtes boomer, vous, Dominique?
Justement, et je suis, comme je le disais tout à l'heure, à votre collaborateur, et je parle en tant que papy boomer, je suis attiré de cette chose. Si vous voulez, je peux vous raconter une toute petite expérience.
Allez-y.
Qui dure une petite minute. Je suis au moment des manifestations en 2009 et en 2018 des jeunes sur Freedom for Friday. Donc, c'était en septembre-octobre. Je suis allé voir des jeunes à la sortie de lycée pour leur proposer un slogan. Nous ne paierons vos retraites que si vous réparez notre planète. Nous ne paierons vos retraites que si vous payez vos dettes.
On entend la rythmique du slogan, là.
Mais une fois dans la manifestation à laquelle j'ai participé avec quelques autres boomers, nous étions très très rares, eh bien, ils se sont tus. C'était le même slogan d'année en année. Ouais. Chaud, 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 nous sommes chauds comme la planète. les jeunes ne se mobilisent pas assez.
On a bien compris.
L'héritage que nous leur laissons.
On a bien compris. On entend votre colère de boomer. Merci d'avoir partagé avec nous. Marc Lazare vous répond, Dominique.
Eh ben, notre enquête, Dominique, nuance beaucoup cela. Je comprends que vous soyez atterré, mais quand vous allez lire l'enquête, vous allez voir que c'est plus compliqué que cela. Alors, pourquoi c'est plus compliqué? D'abord, parce que 69% de ces jeunes de 18 à 24 ans considèrent que le vote, c'est un bon moyen, c'est un moyen utile pour pouvoir changer les choses. Et une grande majorité d'entre eux se disent réformistes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un rejet de la démocratie, ce qu'on appelle en général représentatif. Je n'ai pas libéral ici. Donc, il y a une acceptation du vote. Mais en même temps, c'est vrai que 51% disent que finalement, un gouvernement démocratique, c'est pas si important que
mais
cela.
Mais c'est ça quand même. Donc, ça, c'est quelque chose qui est massif dans cette enquête, qui d'ailleurs fait écho au livre La Fracture de Frédéric Dabi qu'on avait reçu, qui était une autre enquête aussi sur les jeunes.
Oui, avec lequel on a un point de désaccord.
Ah oui, mais là, on est un peu en désaccord avec Frédéric Dabi.
On va y revenir si vous le voulez bien. Non, pas sur ce
point-là. Non, mais sur la fracture entre générations. On pense que la fracture entre générations est beaucoup moins forte qu'il le dit. Prenons un exemple, si vous voulez. Un exemple vraiment emblématique, c'est l'attitude à l'égard de l'environnement. Eh bien, là, on a posé tout un ensemble de questions et véritablement, il y a plutôt un consensus générationnel sur l'environnement.
Oui, il n'y a pas une spécificité jeune de l'intérêt à l'environnement. Voilà. Vous dites 90% des gens aujourd'hui ont conscience que
c'est un problème. Voilà, donc si vous voulez, il y a plus une différence de degré que de nature entre les générations.
Ouais. C'est un élément important. Juste pour terminer sur la politique, Léa, d'un côté, donc il y a cet attachement au vote qui est moins important que les générations précédentes. Il y a, en revanche, effectivement 51% de jeunes qui considèrent que c'est un gouvernement démocratique important. C'est 20 points de moins que les boomers de Dominique.
Oui,
bien sûr.
Ils disent pourquoi pas un régime autoritaire, la démocratie
va forcément.
Pas ça.
Dans notre enquête, on n'a pas posé cette question.
C'est la question de l'intervieweuse. On dit un jeune sur deux n'est pas attaché à la démocratie, ça veut dire quoi?
Notre enquête montre que les jeunes sont moins extrémistes que les générations plus âgées. Ils se sentent moins proches de l'extrême droite. Ce qui les caractérise principalement sur le plan politique, c'est la désaffiliation politique. Voilà. Il y en a à peu près la moitié d'entre eux qui ne se situent pas politiquement. C'est ça qui les caractérise principalement, c'est ce retrait par rapport à la politique.
On peut résumer d'une formule, si vous voulez, de notre raisonnement à partir de cette enquête, c'est qu'ils ne sont pas hostiles par principe à la démocratie, mais ils sont insatisfaits et ils ne comprennent plus les formes d'organisation qu'elle prend aujourd'hui. C'est pas la même chose. En d'autres termes, et ça c'est l'intérêt de cette enquête, espérons que les différents candidats à l'élection présidentielle vont la lire, parce qu'il y a des réponses à apporter à ces attentes des jeunes et à ces interrogations. Donc c'est un élément très important. Je crois que l'erreur c'est de dire « Oh, c'est terrible, cette jeunesse n'est pas intéressée intéressés par la politique. Donc c'est bien plus compliqué que ça. Ils sont intéressés par un certain nombre de questions sociétales, ils reconnaissent l'importance du vote, ils s'interrogent aujourd'hui, effectivement, ils peuvent avoir arrivé jusqu'à ce doute que vous soulignez, Léa Salamé, sur, attention, le gouvernement démocratique, est-ce que c'est si important que cela? Mais s'il y a un certain type de réponse, de même que sur les questions d'intégration, eh bien, évidemment, on peut récupérer une partie de cette jeunesse. Et il y a plusieurs groupes cibles. Les démocrates protestataires, c'est 39% quand même de ces jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont attachés au principe de la démocratie, qui en gros, on pourrait le résumer d'une formule, c'est de la matière pour la démocratie participative, celle-ci, et qui réfute la violence. Et puis, il y a les 26% de jeunes, surtout désengagés. Et ça, c'est un quart des jeunes, un jeune sur quatre.
Voilà. Un mot, Olivier Galland, oui. Et puis on passe au...
Je crois qu'il faut revenir à la brûlante question
du wokisme.
Il faut revenir à l'effet culturel. Il faut revenir à l'effet culturel, si vous voulez. Parce que cet effet culturel, je pense, va accroître les inégalités de participation entre les jeunes. Parce qu'au fond, tout le monde aujourd'hui est très défiant à l'égard de la politique. Hein, on a en gros 60 à 70% de tout notre échantillon qui pense que les hommes politiques sont corrompus. Mais chez les jeunes de familles à haut capital culturel, on continue malgré tout à s'intéresser à la politique, à participer politiquement. Par contre, cette défiance chez les jeunes de familles à très faible capital culturel a des effets beaucoup plus délétères et là conduit à un retrait total par rapport à l'engagement et à l'intérêt pour la chose publique. Donc la fracture à l'intérieur de la jeunesse, en fonction du capital culturel, est en train de s'accroître.
Vous relativisez l'idée d'une jeunesse obsédée par les questions de genre, par le wokisme, la cancel culture. En fait, les jeunes sont partagés, on a dit un mot du racisme tout à l'heure, une courte majorité refuse l'idée que la France est un pays structurellement raciste. Seule une petite minorité, 11%, y croit. Donc sur ces sujets, au fond, il n'y a pas non plus de rupture générationnelle. C'est une peur de boomer de dire que le wokisme est partout et que la cancel culture arrive et traverse l'Atlantique.
Oui, je crois, si vous voulez, qu'il y a eu une erreur un peu de conception d'un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites sur ces sujets, qui n'ont interrogé les jeunes que sur ces sujets. Donc quand on fait ça, eh bien on trouve ce que l'on cherche. Bon. Nous, on a interrogé les jeunes sur toute une palette de questions sociétales. Et quand on fait ça, on peut voir la hiérarchie dans ces questions sociétales. Et on voit que la question des inégalités, la question des violences faites aux femmes, la question de la faim dans le monde, la question de l'environnement, sont plus importantes pour les jeunes que, par exemple, les questions de genre ou de droit LGBT, même si, malgré tout, il y a un tiers des jeunes qui trouvent ce sujet important. Mais vous voyez, c'est un tiers. Donc on a un effet de loupe. Et qui tient aussi au fait que les jeunes qui se mobilisent sur ces questions, eh bien, ils font partie des démocrates protestataires dont on en a parlé. C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui sont déjà politisés, mobilisés,
qui ont un haut niveau d'instruction.
Les parents des livres.
Voilà, qui ont une grande visibilité. Mais justement, notre enquête montre que la jeunesse est beaucoup plus diverse et beaucoup plus contrastée.
Et des parents politisés, très souvent, des parents politisés qui ont eu une expérience associative, etc., qui ont baigné dans cette socialisation.
Un mot de réaction chacun à l'intervention d'Hervé sur l'application. Il n'y a donc plus de révolutionnaires, demande-t-il, point d'interrogation, trois points d'exclamation.
On a 20% de jeunes révoltés qui sont des jeunes en détresse psychologique et sociale et qui sont pour la révolution, ils existent toujours.
Merci à tous les deux.
Merci
Olivier
beaucoup.
Galland, Marc Lazare, c'est absolument passionnant. Je renvoie à donc cette jeunesse plurielle enquête auprès des 18-24 ans, rapport février 2022, Institut Montaigne. Merci encore.